Nature, cette promenade écologique et sonore à la découverte du territoire marseillais. Dans le prolongement de son livre « Marseille, énergie et frustration » sorti aux éditions Autrement en mai 2006, Baptiste Lanastèze invite à une série de promenades sur la commune de Marseille, entre ville et nature.
Ça va pas aller bien loin.
Non, ça bloque un peu, je pense. Mais c'est pas grave. Oh, c'est incroyable. Il y a des morceaux, il y a des bouts d'objets et on sait pas du tout ce que c'est. Quoi. C'est... Ah, là ça s'arrête, je pense. Hein.
Alors le chemin s'arrête, mais on entend la cascade là-bas quand même. Oui.
Je sais pas ce que c'est, il y a encore autre chose là derrière. Une espèce de... Je dirais que ça remue du granulat ou des cailloux. Et il y a là, on voit au bord de la berge les premiers systèmes de maintien des berges, c'est des pieux ça. Avant qu'il y ait un mur de soutènement, les premiers systèmes de maintien de la berge, où c'est des pieux de bois qui sont ancrés, là, qui maintiennent tout le bord.
Non là, mais
c'est
le...
riche ces bords de berge parce que... Les crues ramènent des boutures, des fragments de végétaux, et c'est ce qui va faire que ça va maintenir, construire la berge. Et souvent, c'est des plantes vagabondes qui viennent s'installer sur ces endroits.
C'est des acacias, c'est quoi?
C'est des élantes, ça. C'est l'angélique de Chine. C'est une plante de friche, une plante qui pousse partout. Des endroits humides, secs. Ça sent un petit peu fort, c'est très cassant, et du coup, ça ne m'étonne pas qu'on le retrouve au bord de berges comme ça.
Donc là, ça pousse sur une espèce d'agglutinat de déchets entre un mur en béton et le ruisseau des Égalades.
Voilà, il doit y avoir un peu de tout. Mais ça doit fabriquer à manger pour elle, ça. Au-dessus de nous, c'est des ormes. Ça, je suis assez surpris. Ah oui, c'est des petits ormes, ça. Les ormes, on va les retrouver que dans des endroits un peu planqués. Même ceux-là, ils sont un peu malades. Ils ont été très malades, les ormes, il y a quelques années. Et ceux qui subsistent, c'est que ceux qui sont dans des endroits un petit peu cachés, comme ça.
On pourrait imaginer que le parc bio s'étend jusqu'à la rivière, tu penses, ou elle est
pas? Bah oui, c'est, enfin, ça me semble, ça me semble un petit peu évident. Maintenant, bah, ça me choque plus trop ce genre de dommage, tu vois. On se dit, oh, c'est dommage quand même, il y a une rivière, il y a la possibilité de travailler une berge, d'en avoir un accès à l'eau. Ok, l'eau, elle est peut-être pas hyper clean. Bah, pourquoi est-ce que un parc, l'aménagement d'un parc pourrait pas aussi fédérer un travail sur toute une rivière en disant, ben, quand même, on a de la chance d'avoir une rivière comme ça qui passe en ville, alors qu'on est à côté de la mer. Si ça pouvait être accessible, ben voilà, moi, on est rentré, on a eu le son des enfants qui jouaient avec tous les jeux d'eau. Ces jeux d'eau, c'est vachement intelligent, c'est bien foutu, c'est des mécaniques. On a quand même recréé des jeux d'eau, alors qu'on a une rivière. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi dire, ben, l'énergie qu'on met dans fabriquer les jeux d'eau, est-ce qu'on pourrait pas essayer de la mettre dans un travail sur l'épuration, sur la gestion vraiment de cette rivière, par où elle passe, qu'est-ce qu'elle récolte comme eau pluviale, comme eau usée, est-ce que ça pourrait pas être un autre réseau qui ramènerait les eaux usées à la mer, et du coup on aurait une rivière. Donc moi je pense que de toute façon on n'est que dans un moment de suspens comme ça, mais enfin ça va être obligatoire ce genre de... On a trop de chance d'avoir ça ici.
Et tu penses que l'assainissement du ruisseau des Égalades, c'est un chantier utopique ou c'est un chantier possible?
Non, moi je pense qu'il n'y a pas d'utopie, c'est qu'une histoire de volonté.
La cascade là-bas, elle a l'air de mousser un petit peu.
Oui. Ah non, mais c'est sûr que ça chope des eaux usées, ça. C'est sûr.
Bon, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on commence à ramasser quelques plastiques pour initier le chantier.
Allons-y. D'accord. Non, j'ai pas vu beaucoup de plastique.
Regarde, il y en a un ici.
Ah oui. C'est pas encore ça tellement le plus ennuyeux.
C'est pas le plastique.
Bah non, c'est pas ça, c'est la mousse justement, la mousse c'est pas le plastique. Simplement je me dis, on est dans un parc, il y a de l'eau qui coule, et il y a des jeux d'eau à côté. Juste je me dis, oh tiens, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement?
Qu'est-ce qu'on fait, Rémi? On repasse par le...
On repasse par le grillage.
Grillage déchiré, oui. Par où on est venu?
Pas forcément, on peut continuer par là, il y aura d'autres grillages. Et je me disais que c'était pas hasardeux si les grillages étaient ouverts pour pouvoir avoir accès à ces endroits-là, justement.
Alors, dans l'eau du ruisseau des Égalades, on trouve pas mal de canettes d'Oasis, de Coca-Cola. Mais on trouve aussi un os de vache. Et puis, il y a même une chaussure, là.
Une chaussure, oui. Pas mal de... Les ruisseaux, les rivières, de toute façon, c'est toujours des transporteurs d'objets légers, flottants. Moi, la première fois que ça m'a marqué, ça, c'était il y a longtemps, en descendant les gorges de l'Ardèche, où l'Ardèche, elle traverse pas mal de plaines avant, vers Aubenas, dans des zones où il y a beaucoup de jardins qui viennent habiter les berges. Et du coup, au niveau des plantes, dans les zones... des gorges de l'Ardèche où on a beaucoup, surtout des chênes, donc quelques peupliers, des saules, des plantes plutôt classiques pour les bords de rivière, comme on dit, qui ne sont pas anthropisées. Ben là, on va trouver des géraniums, des platanes, des plantes, des fleurs de jardin, je me souviens de balsamine aussi, des impatiences, des plantes qui sont échappées des jardins et qui viennent comme ça coloniser les berges. C'est toujours des lieux, on pourrait faire des études sociologiques même sur les bords de berges. Rien que là, depuis tout à l'heure, on a fait 10 mètres depuis le ruisseau, on a déjà pris 2, 3, 4 types d'escaliers pour monter. D'abord, on est marché sur des racines qui ont été utilisées pour servir de cale en fait. Enfin, la terre se cale dedans, ça fait une marche. Ensuite, là, c'est des petits escaliers en béton qui ont été bien lavés par une pluie sans doute, et du coup, qui sont un petit peu devenus en terre. Et là, c'est un objet mythique du XXe siècle, des dalles de gravillon lavé. Quand même extraordinaire, qui sont maintenus avec des petites tiges filetées. Donc ça, c'est du jardin quand même. Et là, on n'est pas dans le parc Billou.
On en est sorti.
On est juste à côté, la grille est là. Alors, je vais taper dedans. Là aussi, elle est un peu ouverte, déchirée, parce qu'évidemment, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dans ces endroits-là. C'est là que c'est mystérieux, c'est là que c'est attirant comme enfin, je sais pas, comme tous les jardins, un peu buissonniers dans lesquels on est allé quand on était minot. Est-ce qu'on peut fabriquer des lieux comme ça? Moi, je pense que oui, mais en même temps, c'est bien aussi qu'il en existe comme ça, en marge, en tout cas, du jardin. Qu'est-ce qu'il y a? Une plante un peu intéressante. Des sureaux, ça c'est des lauriers pour la cuisine.
On traverse une voie ferrée apparemment désaffectée puisqu'il y a des ronces dessus. Je crois que c'est une voie ferrée industrielle entre une usine qui était ici et la gare Saint-Charles.
Ouais, c'est ça. La grande clairière, donc comme partout ici, dès qu'il y a grande clairière, on retrouve cette extraordinaire plante qui s'appelle la folle avoine, qui est quand même incroyable. Si on en trouve une, je vous l'aurais bien montré, mais... c'est ce qu'on appelle le spigaou aussi ici. Et la graine de cette plante-là, si on met une goutte d'eau dessus, elle se met à avoir des contorsions, à se vriller, de façon à devenir en fait une tarière et à s'enfoncer dès qu'il y a une pluie, dans la moindre fissure, elle s'auto-plante. Une tarière, c'est un objet qui sert à faire des petits forages de terre. Donc c'est une vis, comme une grosse vis avec des poignées, qu'on plante au sol et qu'on fait pivoter. Ça s'enfonce dans le sol. Ben, le spigaou, il fait ça aussi tout seul. Avec ses deux petites pattes, on dirait, ça devient presque un insecte quand on le met bouger. Peut-être que tu avais déjà fait l'expérience de l'araignée avec l'emballage des pailles. Vous connaissez ce truc-là? Quand vous prenez une paille au café, il y avait l'emballage, le papier d'emballage de la paille, et ben vous découpez des pattes dedans, vous le torsadez, et dès que vous mettez une goutte d'eau dessus, ça se met à bouger parce que ça se dévrille. Et ça avance comme une bestiole sur la table et ça fait beaucoup rire les enfants. Et la graine de la folle avoine, c'est exactement ça. Elle se torsade alors qu'elle est encore verte, c'est-à-dire chargée d'eau. Et puis quand la graine arrive à maturité, elle est toute sèche. Donc dès qu'une goutte d'eau arrive dessus, ça fait le système inverse et ça se détorsade. Et ça en profite pour la mettre verticale et l'enfoncer dans le sol.
Donc là, on va continuer à suivre la voie ferrée vers le sud, une petite centaine de mètres, dans cette espèce de friche du parc Biou. Et puis on va aller s'asseoir sous le gros chêne, c'est ça Rémi ?
C'est ça, il y a un très gros chêne un peu plus loin. Donc là, la voie ferrée, il reste plus grand chose, mais ça fait un chemin quand même assez intéressant, puisque ça alterne basalte, donc la roche qui est mise entre les lattes de bois, et puis donc les lattes de bois sur lesquelles on peut marcher. Ça fait un chemin bien balisé. Je sais qu'en Allemagne, il y a beaucoup de parcs comme ça, où ils ont réutilisé les structures de voies ferrées pour vraiment faire les circulations. Tiens, là, il y a un pin qui pousse, un fenouil aussi, enfin, ça c'est plus classique. Là, il y a une superbe toile d'araignée. Des pissenlits, ça c'est des 130 aussi, des valérianes, plantes très, très présentes en friche. Ah, il y a des voitures à côté du chêne, on va quand même y aller.
Alors, c'est quoi cette essence d'arbre dominante là qui est sur
là, c'est à nouveau des élantes, justement, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est très cassant, puis ça se reconnaît beaucoup parce que quand tu froisses, ça pue. Enfin, il y a des gens qui détestent un peu cette odeur. Voilà, donc ça c'est aussi une plante qui se dissémine par le vent. On voit, tu vois les graines, ça fait penser à des samars, les samars de l'érable. C'est vrillé, donc quand ça va tourner, ça va faire des. Surtout quand c'est sec, donc plus léger en eau, ça va faire des vrilles et ça va être transporté. Alors je crois que par là, j'avais repéré des grillages, j'étais rentré par ce côté-là. Il y a des grillages qui sont éclatés, mais peut-être un peu plus loin. À moins que ça ait été fermé depuis qu'on soit coincé. Ah voilà, c'est ouvert.
On continue cette promenade avec Rémi Dutoit, qui est donc paysagiste de l'école de Versailles, donc ancien élève de Gilles Clément. Et on est arrivé donc tout au bout du parc Biou, aux Égalades, donc dans les quartiers nord, dans le 15e arrondissement. Et on est assis à l'ombre d'un chêne qui est superbe, avec des grandes branches qui tombent assez bas, qui est un chêne qui est à peu près 2-3 siècles, c'est ça Rémi?
Oui, sans doute, ouais. Au moins facilement c'est 200 ans, sans problème. Un arbre de cette stature-là, c'est vraiment un exemple de maîtrise du temps. Et j'aime bien me laisser rêver et me dire, voilà, cet arbre il a au moins 200 ans, qu'est-ce qu'il a vécu avant d'être là et de regarder de temps en temps des enfants jouer au foot, des voitures venir se garer. Avant, il a dû se passer plein de choses. Il était sans doute, il a dû sans doute avoir une centralité, cet arbre, une place vraiment importante. Je trouve ça vraiment très très beau, le temps qui est lisible sur un arbre, la façon dont le vent aussi l'a orienté, dont toutes les branches respectent une certaine hauteur avant qu'il y ait contact avec le sol, dont il dessine des horizontales avec ses branches. Comme il a de la place, il va occuper le maximum d'espace en fait, avec son houppier. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans cette architecture-là. En fait, je suis venu au parc Biou, moi, pour. Je l'ai découvert un jour parce que je devais y faire une résidence d'artiste, plus avec ma casquette de plasticien qui travaille avec le vent. Et tout de suite, les endroits buissonniers du parc m'ont intéressé. Tous les lieux qui avaient un devenir de jardin, qui avaient un potentiel si on transforme un petit peu son hangar. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément des lieux, justement, c'est des lieux pas entretenus ou des lieux qui n'avaient pas vraiment d'affectation. Et moi, c'était justement dans ces endroits-là que j'avais envie de travailler avec le vent et du coup pour les révéler, ces lieux. C'était ce qui m'intéressait sur le support des végétaux à chaque fois. De l'autre côté, on n'y est pas passé, mais il y a tout un alignement de platanes au départ du ruisseau des Égalades. Et pareil, c'est des arbres comme celui-ci qui s'appelle, enfin on appelle ça des arbres en port libre, c'est-à-dire que c'est des arbres qui n'ont jamais été taillés, qui ont toujours eu assez de place pour avoir un développement très très large. Et là il se trouve qu'ils sont contre le mur de soutènement du chemin des Égalades, qui est juste au-dessus du ruisseau des Égalades, qui est la limite ultime du parc. À cet endroit-là, les branches viennent en fait frotter sur le mur de soutènement. Elles ont fait des dessins. Et elles ont aussi pris elles se sont poncées en fait les branches à force d'avoir frotté dessus avec le Mistral.
Ces branches de platane sur le mur en béton ont procédé de la même façon que toi, ou plutôt toi t'as procédé de la même façon que ces branches?
Les deux, mon capitaine. J'ai commencé à faire des dessins du vent sans savoir que des végétaux le faisaient aussi. Et ce développement de cette pratique de travailler à des prises d'empreintes avec le vent m'a ouvert le regard et a fait qu'un jour j'ai découvert que des végétaux le faisait, et que je me suis mis, du coup, ça a nourri aussi mon travail d'essayer de modéliser certaines techniques végétales pour faire des empreintes, en fait, dans l'accumulation, dans la répétition du mouvement sur un temps donné, sur le frottement sur un support. Voilà. J'en suis là, mais c'est pas terminé. Justement, ben voilà, on cherchait une transition, il y a eu un coup de vent, et puis ben voilà, c'est pas par hasard si je suis arrivé ici. Moi, à un moment donné, j'aimais bien dire que j'avais suivi le Mistral, en fait, puisque j'ai découvert le vent, j'étais en Ardèche, dans la vallée du Rhône, et puis ben, je l'ai suivi jusqu'à Marseille, en fait. Ça avait été une belle rencontre, en fait, solitaire au départ, et dans le sens où je me suis mis à découvrir que cette contrainte-là pouvait être une formidable opportunité. La contrainte du vent, je dessinais et c'était une vraie galère. Il fallait que je coince mes feuilles, mes feutres, j'étais sur un toit. Et je m'en sortais pas, et il y avait des fils à linge, et je me suis dit, toute la journée dans mon métier de paysagiste, j'arrête pas justement de dire qu'il faut transformer les contraintes en opportunités. Et si je faisais la même chose, je suis là pour dessiner, il y a du vent, est-ce que j'essaierais pas de dessiner avec? Donc dès que ça a germé dans ma tête, ça s'est construit petit à petit. Il y a des objets dont j'étais à l'affût, tout ce qui allait pouvoir me servir à faire réservoir d'encre, à faire prise au vent, système de prise au vent sur ces fameux fils à linge de mon toit. Je les rassemblais et un jour j'ai eu de quoi fabriquer une machine, une structure super simple avec des bouts de carton, des pinces à linge et une danse avec le vent. Donc comme dans mon métier de paysagiste, toute une part technique de réglage, de projection, de dire tiens, qu'est-ce qui va se passer ? J'essaie de prévoir au maximum ce qui va se passer, sachant que je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Et à partir du moment où j'ai fini mon travail, je laisse faire le vent et il y a un dessin qui va apparaître. Donc j'ai expérimenté tout seul pendant pas mal de temps et puis je suis arrivé à Marseille, j'ai travaillé sur le toit de la friche La Belle de Mai, juste après l'expo du groupe Dune. Là encore, j'étais tout seul sur le toit, je lançais des machines, puis je revenais voir le lendemain ce que ça avait fait. Ou des fois, je restais pendant des après-midi entiers. J'ai fait toute une série de petites expositions où je montrais les dessins comme des résultats. Et en fait, là, je me suis bien planté, je crois. C'était pas du tout intéressant, je crois. Non, c'est vrai, finalement, je m'ennuyais un petit peu et je pense que les dessins aussi s'ennuyaient et que s'il y avait des gens qui tripaient en regardant les dessins du vent, il n'y avait pas le partage du moment où le vent était en train de dessiner et je me suis rendu compte au bout de quelques temps que le processus de dessin était tout autant important que le résultat. Du coup, montrer les dessins dans des galeries comme un tableau, c'était pas exactement mon propos. Voilà. Du coup maintenant j'essaye plus de m'inscrire dans des temps de résidence où les gens qui viennent voir mon travail vont pouvoir voir des machines en train de dessiner, des systèmes en train de dessiner. Le principe là étant le même que quand je vais arriver sur un concours pour un espace public, c'est que je sais que je vais faire un espace, que je vais faire un jardin dans un cas. Je sais que je vais travailler avec le vent dans l'autre, mais je n'arrive pas avec une idée préconçue de ce que je vais faire, j'en sais rien. Et je compte beaucoup sur le lieu pour m'aider, pour le rencontrer et qu'ensemble, avec un site, la rencontre avec le lieu me donne des idées, me donne des clés pour toujours révéler le lieu, se servir d'un caractère du lieu pour l'exacerber. C'est là que moi je trouve le sens des choses. Aussi bien, quand je suis arrivé ici au parc Billou, sachant que j'avais un projet de résidence avec le vent, je savais que j'allais être avec le vent et les endroits buissonniers m'ont intéressé parce que, par exemple, il y a des endroits où le vent va accumuler des feuilles et que c'est des endroits qui ne sont pas forcément entretenus. Du coup, il y a un espèce d'humus qui est en train de se fabriquer et il y a pour moi là aussi un devenir de jardin. Là, j'avais envie de travailler avec le vent dans ces endroits-là aussi pour révéler ces endroits-là aux gens qui allaient venir. Tiens, pourquoi cet artiste il s'est installé dans cet endroit-là du parc alors que cet endroit-là du parc, finalement, il n'est pas clean, il n'est pas intéressant, il n'est pas bien propre, bien éclairé au milieu, le gazon bien tondu. Ces lieux-là sont porteurs d'une dynamique végétale de, pour moi qui sont beaucoup plus riches dès qu'on rentre dans une thématique de jardin qu'un endroit bien dégagé, bien tendu. Ça touche la question du regard. Et là, même quand je vais travailler justement du coup plus en conception sur un espace public, moi aussi, c'est la question du regard qui m'intéresse. C'est comment est-ce que je vais pouvoir proposer un aménagement qui va faire que, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais j'assume, les gens qui vont visiter ensuite, qui vont être présents, qui vont user cet endroit, qui vont le vivre, vont pouvoir en comprendre une particularité qui est peut-être là, déjà, mais qu'ils avaient eu tendance à oublier. Ici au parc Billou, si un jour il y a une réhabilitation de ce parc qui est faite, qu'il y a un concours où il y a plusieurs paysagistes qui sont amenés à concourir, c'est évident que les voies ferrées seront des opportunités de projet extraordinaires. C'est évident que le ruisseau des Égalades sera une opportunité de projet extraordinaire. C'est-à-dire tous les lieux qui actuellement dans ce parc ne sont pas considérés comme étant des lieux de jardin, c'est-à-dire tous les lieux qui sont clos, fermés, où on ne veut pas que le public aille, sont les lieux qui sont pour moi le porteur d'une plus grande richesse de jardin.
Rémi, à côté de ton activité principale de paysagiste, tu as plusieurs activités parallèles, tout aussi importantes. Il y en a, d'une part, tu fais du jardin, tu jardines une fois par semaine.
Oui.
dans une propriété à Aix, et d'autre part, donc, tu as tes activités de plasticien avec le vent. On pourrait se dire de loin que les activités de plasticien avec le vent n'ont pas de rapport direct avec ton activité de paysagiste, mais ce que moi je trouve intéressant dans le fait que tu fasses ces deux choses, c'est que le vent, il fait partie de la nature. La nature n'est pas seulement forcément verte, elle peut être, d'ailleurs à Marseille elle est plutôt bleue et blanche, bleue comme la mer, blanche comme le calcaire, et en plus elle peut parfois être sans couleur. Le vent, c'est la nature, c'est l'air, il est là autour de nous.
Comme dans le travail de paysagiste, c'est vraiment la question du regard, moi, qui motive tous mes processus de création. C'est de réveiller le regard qu'on peut avoir sur les petites choses du quotidien. Donc le vent, par essence, est invisible, du coup complètement approprié au travail du regard pour moi, puisque très rapidement, en fait, j'ai dans ma recherche de mon travail avec le vent, j'ai différencié ce que j'ai appelé les effets et les traces, c'est-à-dire deux manières d'appréhender ce phénomène des déplacements des masses d'air. Les effets, ça va être aussi bien visuel que sensitif. On va sentir le vent sur sa peau, dans les cheveux, on va le visualiser à la surface de l'eau, on va voir une feuille trembler, on va voir une brindille bouger, on va voir un sac plastique s'envoler, faire une danse. Souvent je repense à, il y a eu un extrait comme ça dans American Beauty, où il y a un jeune type qui dit: ah, tu vas voir, je vais te montrer les plus belles choses que j'ai filmées de ma vie. Et il filme un sac plastique qui est pris dans un tourbillon et qui fait une danse comme ça. J'en avais vu, moi, des très très beaux à la plaine, à la plage Jean Jaurès, qui faisait des angles, à l'angle du boulevard Chaves et de la plage Jean Jaurès. C'est un endroit, un jour de Mistral, où il y a vraiment un tourbillon et où il y a une danse incroyable de sac plastique. Ben voilà.
Alors ça, c'est les effets.
Ça, c'est les effets du vent. Et regarder un sac plastique danser et proposer un autre regard là-dessus, pour moi, c'est un travail de paysagiste aussi. Et les traces, c'est plus les choses qui vont raconter la présence du vent, alors que même il n'y en a pas. Une éolienne, quand elle ne tourne pas, elle raconte le vent. Un manche à air, quand il est tout aplati, vertical, il raconte aussi: là, il y a du vent. Et puis la découverte des traces au sens propre du terme, qu'on va pouvoir trouver dans le sable avec une oya, des plantes comme ça de dunes, fixatrices des dunes, qui vont dessiner des courbes, des cercles un peu concentriques dans le sable. Un morceau de lierre qui pend d'un mur de l'hôpital à la Timone. Il y a comme ça des lierres qui passent le mur, qui pendent et qui, à force de frottement, vont dessiner comme ça des arcs de cercle. Et ça aussi, ces petits événements urbains, ces petits détails-là, pour moi, sont complètement poésie. Et du coup, ben les... voilà, je sais que quand j'ai montré des dessins ensuite que moi j'ai pu modéliser, il y a des personnes qui m'ont envoyé des photos en me disant merci Rémi de m'avoir ouvert les yeux sur les dessins du vent, et qui m'ont envoyé des photos de comme ça, d'une trace sur un mur, ou bien d'un détail sur un morceau de sable sur une plage. Et à partir du moment où le regard se réveille là-dessus, le regard, je deviens ce que j'appelle amoureux. C'est-à-dire qu'on va... Oui, si on commence à trouver de la beauté dans ce genre de petits événements-là, à mon avis, on ne va plus regarder les choses autour de nous pareil. Et là, pour moi, il y a un point de départ d'une pensée écologique.
Puisque tu m'offres cette transition, donc je te pose la question que je vais poser à tous les intervenants de cette série consacrée à la nature et à la ville, donc à Marseille. Le mot d'écologie, même si c'est quelque chose dont tu parles beaucoup, finalement, le mot lui-même, tu ne le prononces pas très souvent. Mais j'aimerais quand même te demander, qu'est-ce que c'est pour toi l'écologie? Comment tu définirais ça avec tes mots à toi?
C'est vrai que je n'emploie pas beaucoup, parce que sans doute c'est pas... Enfin, je sais que je suis quelqu'un de très intuitif, mais tout de suite, ce qui me vient, c'est lié avec la responsabilité, je pense, de notre situation de terrien. Au fait qu'on a la responsabilité du maintien de l'équilibre de cette planète. C'est à nous que c'est confié, cette responsabilité. Je pense que c'est presque ce qui pourrait nous définir en tant qu'être humain. Et qu'on a cette responsabilité. Et du coup, ce qui me vient là, c'est quelque chose que j'essaie souvent de faire la différence entre les objectifs et les conséquences. Et je pense que l'écologie, c'est porter attention aux conséquences, voilà, pour moi. C'est-à-dire, et c'est ça, être adulte, je crois, aussi, sur cette planète-là. C'est penser que chaque acte a des conséquences, et du coup penser chaque acte et chaque projet avec les conséquences qu'ils vont avoir sur notre milieu.
Dans cette série d'émissions sur le thème de la nature à Marseille, c'était un petit peu ironique de venir dans des espaces verts attitrés, puisque Marseille, sur plus d'un tiers de sa superficie, consiste en étendues naturelles, sauvages, préservées, donc calanques, garrigues, etc. Et c'est d'autant plus ironique de s'intéresser aux espaces verts à Marseille, avec toi, Rémi, qu'effectivement, toi, ta démarche consiste plutôt à mettre un peu le désordre ou à laisser le désordre se faire et trouver un nouvel ordre naturel, plutôt qu'à mettre les choses au carré. Alors sur Marseille, tu as réalisé plusieurs jardins, la place d'Arvieux, où tu as fait un aménagement provisoire, et le square de la Joliette. Ton parti pris un petit peu buissonnier, d'utiliser des essences qui étaient peut-être moins courantes que celles qui étaient utilisées, de laisser un petit peu de désordre s'installer, etc., n'a pas forcément été compris, à la fois par le public et aussi par la ville. Mais est-ce que tu pourrais revenir sur ce que tu as voulu faire sur le square de la Joliette ?
Par le public, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, enfin, moi je suis même persuadé, jusqu'à preuve du contraire, que c'est un lieu qui a été très apprécié du public, justement parce qu'il proposait une différence. C'est intéressant ce que tu disais sur l'ordre et le désordre, surtout sur le fait que maintenant on est, je crois, à une époque où dans la conception des espaces verts, des jardins en ville, on n'est plus du tout dans un état d'esprit de décoration. Les jolies fleurs ordonnées qui sont encore très visibles, c'est vraiment de l'ordre de la décoration. C'est un métier aussi, c'est pas évident à faire, je suis pas du tout en train de cracher dessus. Simplement, je pense que maintenant il y a moyen, pour des raisons culturelles, d'évolution des regards justement sur ce qui nous entoure, de proposer des espaces qui sont différents des lieux qui sont simplement des décors. C'est-à-dire que ce qu'on va apporter en plus du décor, c'est du sens. Le square de la Joliette, on a d'abord décidé de faire un jardin qui soit autonome, c'est-à-dire un jardin qui puisse très rapidement se débrouiller sans eau, très rapidement se débrouiller avec un minimum d'entretien, mais par contre un entretien intelligent. Les végétaux qu'on a utilisés, c'est vrai que c'était un peu de la provoque, je l'assume complètement, c'est-à-dire qu'on a utilisé des végétaux qu'on ne met pas dans les jardins habituellement, mais pourtant qu'on va retrouver dans les centaines de kilomètres carrés dont tu parlais tout à l'heure. Mais sans faire justement le rond-point de Lumini, c'est-à-dire sans faire une reconstitution de la garrigue, moi ce qui m'intéressait c'était de pointer toute cette richesse qui est présente, qui n'est pas toujours exploitée parce que, bon, par exemple on met des cistes, je sais que les cistes, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop en mettre parce qu'on va dire ça fleurit un mois seulement. Mais moi, cet aspect éphémère de la floraison des cistes, elle m'intéresse aussi. Le feuillage que ça va avoir ensuite, ça m'intéresse. Et puis, on n'a pas pris que des végétaux, des calanques, on a pris des végétaux méditerranéens, mais de climat méditerranéen du monde entier. Il y a pas mal de buddleia, de plantes qui sont des plantes de friche, qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent d'Australie, de climat méditerranéen, qui sont beaucoup considérées comme des plantes, des acanthes aussi, des plantes de friche. Je pense que ça trouvait son sens au square de la Joliette, puisque dire qu'on faisait un aménagement dans ce lieu-là, dans un des premiers aménagements définitifs de Remède, qui va restructurer énormément de lieux qui sont des friches industrielles aussi, travailler avec des végétaux qui sont parfois des végétaux de friche, mais transformer le regard qu'on peut avoir, dire regardez ce végétal de friche là, si on le met en scène, si on le met en valeur, si on le laisse se développer, regardez la beauté que ça peut produire. Je trouve qu'il y avait un lien par rapport au passé du lieu qui avait du sens, vraiment. Presque maintenant, j'ai envie de dire tant mieux s'il n'a pas été compris. Ce à quoi je tiens, c'est que ça fasse débat. Ça a fait débat, j'espère qu'il y en aura encore, que tout le monde va apprendre avec ça. Qu'est-ce qu'on veut comme ambiance végétale dans une ville, qu'est-ce qu'on cherche maintenant. Moi j'ai le sentiment, et peut-être c'est un peu de l'espoir, qu'on a dépassé certaines craintes. Je pense que la volonté « faites-moi quelque chose de propre », de bien rangé, elle est énormément liée à beaucoup de trouilles finalement. Toujours ce côté un petit peu vouloir absolument maîtriser la nature, parce que si on ne la maîtrise pas, on a le sentiment qu'on va disparaître, qu'on est en perte. On n'a plus ce pouvoir-là. Moi, je me dis que la mentalité, à ce moment, elle est en train d'évoluer. On est en train de plus se considérer comme en faisant partie. Et que du coup, on a besoin de moins de violence vis-à-vis d'elle. On peut se permettre de faire des choses, de fabriquer des joyeux bordels organisés, voilà. Et qui vont fabriquer des ambiances bah, comme celle qu'on vient de traverser là, où finalement on sent qu'il y a plein de possibles et qu'il y a plein de partages, qu'il y a plein de choses à apprendre de n'importe quelle plante. Voilà, le débat qu'il y a eu, je pense que c'est les derniers soubresauts un petit peu d'un espèce de flip qui est en train de disparaître de toute façon. On se raccroche toujours à de la géométrie, à de la propre, à du bien dégagé autour des oreilles, quoi. Aussi par facilité de gestion. Mais là aussi, il y a plein de villes qui sont en train de faire plein d'expériences. À Lyon, il y a des moutons qui vont entretenir les parcs. Ils se sont rendus compte que ça faisait plein d'économies, ça faisait moins de pollution sonore, que ça faisait directement du compost utilisable. Il y a plein d'endroits où on arrête d'utiliser du désherbant aussi. C'est sûr qu'il y a tout un passif dans la gestion des espaces verts qui est en train d'être un peu remis en cause. Mais puis un truc nouveau que je me disais pas il y a quelques années, c'est que finalement là aussi l'argument financier va peut-être venir faire changer les mentalités.
C'est-à-dire
que c'est faire des lieux autonomes, utiliser des plantes endémiques ou bien des séries floristiques qui sont locales, de même climat, ça, et avoir des modes de gestion sans coût de désherbant, ben, ça fait des gestions à l'année qui sont beaucoup moins coûteuses. Plus intelligentes. C'est sûr qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont avoir besoin d'être sacrément formées parce que sur le square de la Joliette par exemple, la question du désherbage est super intéressante. Vraiment quoi. C'est est-ce que tout d'un coup le jardinier il a pu se dire tiens ça c'est une mauvaise herbe, j'enlève. Non, il a à se dire tiens ça c'est une valériane qui s'est ressemée ici. Est-ce qu'elle va être en concurrence avec une plante du jardin ou pas? Si je la laisse, qu'est-ce qui va se passer? Et la décision de l'enlever ou de la laisser, elle se pose. Et du coup, il y a un acteur lui aussi du jardin dans l'entretien qui va proposer. Mais je trouve que tout le monde a gagné. C'est carrément plus intéressant que de prendre son vaporisateur de Roundup et puis de passer pour vite se débarrasser de ça, quoi. Dès qu'un travail devient une source d'apprentissage, je crois que déjà, on est carrément plus content de se lever le matin. Bon, bah voilà, si en plus, des jardins, des lieux conçus peuvent être cette occasion-là, faut continuer. Enfin, en tout cas, moi, je m'arrête pas.
Thank you.
est-ce qu'il y a encore des choses à faire à Marseille? Est-ce que j'ai encore des choses à faire à Marseille? Moi, juste, ben, super pragmatique, tu vois, le Square de la Joliette, c'est un concours qui a été lancé par Euromède et la Ville. C'est un concours qu'on a gagné. C'est un jardin qui a été réalisé, puis c'est un jardin qui a été détruit, puis c'est un jardin qui a été réhabilité. Donc, voilà. Je crois que ça fait aussi son chemin. Enfin, en tout cas, voilà, il est là. Il est là. Il y a des gens qui sont très heureux d'y manger leur sandwich. Il y a des gens qui sont très heureux de découvrir un endroit qui est différent de ce qui a été fait. Donc ça a été possible. Donc après tout, ça a été possible là. C'est toujours possible ailleurs aussi, dans d'autres parties de Marseille. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, moi, à la ville de Marseille, qui ne sont pas du tout insensibles à ce discours-là, qui sont tout à fait conscients qu'il y a encore du boulot dans l'évolution des mentalités, mais qui mènent des expériences avec des végétaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc on a pu travailler ensemble et tant mieux, quoi, tant mieux pour la ville. Moi, c'est d'abord pour les lieux que je travaille. La deuxième partie de ta question, c'était est-ce qu'il y a des lieux où j'aurais des envies? Bah oui, il y en a. Enfin, c'est une ville qui fabrique des envies. Parce que déjà, il y a une possibilité de réfléchir par cette espèce de foisonnement. Je sais que souvent, quand je passe au vieux port et que je vois le végétal qui est utilisé comme une décoration sur les abords du vieux port, là, je me dis qu'il y aurait vraiment une possibilité de faire quelque chose d'unique.
Donc là, tu penses aux pelouses en particulier qui sont oui. Sur le...
Oui, à tout ce qui est la représentation du végétal au vieux port. Elle se situe encore actuellement beaucoup sur du végétal qui est là pour faire beau. Je pense aux palmiers qui sont dans ce qui s'appelle les bacs Versailles, voilà, les palmiers d'orangerie. Je le regarde avec un petit peu de... Un petit sourire en coin parce que je me dis on fait comme ailleurs. Alors qu'il y a tout dans cette ville pour faire comme nulle part ailleurs. Voilà. C'était une calanque le vieux port avant. Ça veut dire qu'au niveau végétal, on peut trouver des plantes qui vont venir raconter ça et du coup avoir du sens, être ultra simple d'entretien et se démarquer de tous les autres espaces qu'on peut trouver dans des villes de bord de mer.
Donc c'est-à-dire des pins, des chênes?
Non, pas forcément. Ça veut dire de la végétation rase, la végétation qui va se servir du sel. Ça veut dire, là encore, enfin, de la végétation qui va raconter le calcaire, qui va raconter le vent, qui va raconter la résistance au vent, qui va peut-être choquer dans un premier temps. Mais en même temps, je suis sûr que si là, actuellement, on demande à des touristes ou même à des habitants de Marseille, qu'est-ce que c'est les plantes qu'il y a au Vieux-Port ? Personne sait exactement ce qu'il y a. Qu'on voit vaguement une image mentale d'une pelouse bien verte et de coloris qui varient en fonction des thématiques qu'on a chaque année, quoi. Donc on va partir dans du jaune, dans du rouge, dans du bleu, dans des plantes qu'on va trouver, mais qu'on va trouver dans n'importe quelle entrée de ville, dans n'importe quelle ville de France. Alors qu'on est à Marseille, qu'on est au Vieux-Port et qu'on n'est pas ailleurs. Si, à la limite, il y avait un peu de provoque et quelque chose d'un peu choquant, en même temps, je crois que les esprits seraient marqués et seraient là, quoi. Et c'est un tout petit peu dommage, je trouve.
Et peut-être le jardin du Palais Longchamp, parce que ton atelier est rue Grosbet, juste derrière
oui, c'est vrai
juste devant le Palais Longchamp.
Ouais. Le parc Longchamp, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il est... Enfin, j'ai fait beaucoup d'interventions, même avec des enfants, de la compagnie, du quartier de Belzunce. Où c'est un très bon support pour parler de paysage, c'est-à-dire de parler des différentes couches d'aménagement, des différentes époques, des différentes attitudes ou bien projets qui ont vu le jour et qui se sont effacés, qui ont laissé la place à d'autres. Il y a plein de traces, de limites, des restes de cages du parc zoologique, des restes de clôtures qu'on ne comprend pas trop, des coins abandonnés, comme ici au parc Billoux. Il y a plein d'énigmes, plein de choses, on dit mais comment ça se fait qu'il y a cette topographie, comment ça se fait qu'on se retrouve sur des plateaux aussi hauts, puis à un moment donné on voit des grilles qui nous font comprendre qu'en dessous c'est creux, et puis on comprend petit à petit qu'il y a une arrivée du canal, et puis en creusant un petit peu on se rend compte qu'il y a deux étages de voûte avec 12 000 mètres cubes d'eau qui étaient stockés avant, que c'était, enfin voilà, qu'il y a un potentiel d'imaginaire pour fabriquer du jardin qui est incroyable dans cet endroit.
Alors notre promenade au parc Biou aujourd'hui a commencé au bord du ruisseau des Égalades. Oui. Et donc en effet au Palais Longchamp, comme dans pas mal d'autres endroits à Marseille, il y a des témoins vivants ou alors historiques de l'histoire, de toutes les histoires d'eau de Marseille, entre les canaux, les rivières naturelles, les rivières busées.
Pour parler plus en général sur Marseille, je crois qu'il y a le pari de l'eau à Marseille et un pari à prendre vraiment. L'histoire de cette ville, elle est très très liée à l'arrivée de l'eau. Le parc du 26e centenaire par exemple, moi j'ai toujours ce regret de voir qu'il y a une rivière artificielle qui a été créée alors qu'on a une rivière qui le traverse et qui est busée. Il y a
L'Uvonne,
voilà. Ici aussi, on a le ruisseau des Égalades. Je sais qu'il y en a plein dans Marseille, des ruisseaux qui vont vers la mer et qui pourraient être une chevelure de demain, de support à des espaces, à des promenades, à une structure de ville qui tout d'un coup retrouve un peu sa géographie. Et qu'on pose la question de l'eau en partant de son épuration jusqu'à l'aspect loisir, jusqu'à l'aspect même nettoyage de la ville, qu'il y ait vraiment une prise de conscience de la rareté de cet élément, de la richesse qu'il y a dans cette ville. Déjà, il me semble, par rapport au début où je suis arrivé, il y a eu des efforts. Je ne vois plus, moi, des rivières couler dans les caniveaux et qui finissent par faire de la mousse partout. Au début, c'était quelque chose qui me choquait, je le vois moins, j'ai l'impression que ça a un petit peu... Ça a un petit peu évolué de ce côté-là, mais il y a encore, je crois, avec l'eau, un fil conducteur et un pari sur l'avenir à faire qui pourra encore plus apporter du lien géographique à cette ville. Je pense que c'est ce qui lui manque un petit peu.
C'était Ville Nature, une série d'émissions consacrées à l'écologie à Marseille. Durant tout l'été, du 5 août au 9 septembre. Prochaine promenade, samedi 13h10 et rediffusion tous les mardis à 10h.